Bonjour à tous. Alors certains me connaissent déjà, donc Caroline Velchef, donc je suis la directrice territoriale Canopée Normandie. Alors Canopée, c'est en fait, je dirais, la refondation, la rénovation, le fait de repenser justement au départ un opérateur public qui était destiné à, je dirais, la création de ressources pédagogiques et l'édition transmédia pédagogique. Et qui faisait aussi un peu de formation en un opérateur qui va faire les deux de façon intégrée et qui va, de façon, je dirais, le plus pragmatique possible, accompagner en fait l'évolution des pratiques de formation. Alors quand je dis des pratiques de formation, ça va être à la fois dans l'éducation nationale, mais aussi avec d'autres types de publics, comme vous le verrez. Juste à l'ancienne. Le fond de mon discours s'appuie sur ces deux ouvrages, en fait. D'un côté, l'ouvrage de Marcel Lebrun, donc sur les classes inversées, et de l'autre côté, sur celui qui s'appelle « Innover dans l'école par le design », que nous avons donc coédité avec la Cité du design de Lyon. Puisque, donc, comme vous l'aurez compris depuis ce matin, notamment dans les interventions de Jean-Pierre et Didier, c'est vraiment le croisement, en fait, des champs de recherche et des disciplines qui est fécond. Et donc, quand il s'est agi de rénover l'opérateur Canopée, l'idée, c'était de travailler avec d'autres champs avec lesquels on n'avait jamais travaillé, à savoir les designers. Donc, ça fait vraiment pas mal d'années, en fait, pour arriver à un Pédagolab, qu'on travaille avec d'autres gens avec lesquels le dialogue n'était pas si fréquent auparavant. Donc, il y avait... quand on travaille avec des designers, ils ont effectivement aussi un autre lexique, si vous voulez, que le nôtre. Les designers avec lesquels on a travaillé nous ont beaucoup parlé de balises, par exemple. Et donc, c'est vrai qu'on s'est beaucoup attardé collectivement. Hein, donc, Canopée au niveau national, c'est 1500 personnes et c'est 103 ateliers Canopée dans toute la France. Et donc ça donne ça, c'est-à-dire balise 1, l'architecture, le mobilier scolaire et le défi de la démocratisation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a toujours pensé les espaces de formation pour les adultes. Une formation d'enseignant, c'est une formation pour adultes. Une formation de formateur, c'est une formation pour adultes. Et curieusement, on l'avait toujours pensé de façon homothétique par rapport à la salle de classe. Et donc, à partir du moment où il y a cette démocratisation et donc tout à coup des très grands nombres à gérer, etc., etc., on n'a pas du tout, vous voyez, dissocié la salle de classe de la salle de formation. C'est très intéressant de voir qu'effectivement, on a fait une enquête auprès de 10 000 usagers, qui étaient donc tous des gens qui étaient soit en posture de formateur, soit enseignant, etc., etc. Et l'une des premières critiques, c'était « on retourne dans une salle de classe pour se former, c'est insupportable ». Voilà. Bon, quand même, ça, c'était très intéressant. Deuxième chose, donc le développement des environnements numériques peut bousculer les espaces d'apprentissage. Je suis prudente sur ce sujet, parce que je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, effectivement, les murs d'expression, etc., etc., tout ça, c'est absolument pas numérique, et ça interpelle beaucoup les espaces d'apprentissage. Trois, la question du statut de l'erreur et de l'expérimentation pour l'enseignant, heureusement, évolue. Et les espaces, les pédagolabs canopés ont été conçus comme des tiers-lieux, c'est-à-dire des endroits où on vient hors de l'espace scolaire, dans un espace de liberté où il n'y a pas spécialement d'inspecteur, et on va venir expérimenter des trucs sans le regard ni du chef d'établissement, ni des autres collègues, etc., parce que les personnels chez moi sont des gens qui sont recrutés comme médiateurs. Tous les mots ont un sens. Ce sont des médiateurs, médiateurs de ressources, médiateurs de ressources numériques, etc., etc. Et donc, ils n'ont pas du tout la même posture. Ils sont formés à ça, d'ailleurs. On a un gros plan national de formation pour accompagner toute la refondation. Et donc, du coup, les enseignants ou les formateurs Greta, d'ailleurs, parce qu'on en a aussi un paquet qui viennent nous voir, finalement, voilà, ils viennent chercher autre chose. Voilà, hein, d'accord. Donc, on est à la fois dans le in et à la fois dans le off. Balise 4, l'exigence sociale de bien-être. Il faut quand même croiser un autre champ de recherche qui est quand même très, très important, tout ce qui est la question du well-being at school, qui est quand même avec vraiment beaucoup, beaucoup de recherches, de champs de recherche sur, effectivement, tout ce qui va être la notion donc, de bien-être à l'école, de bien-être en général dans la société, etc., et une exigence, finalement, nouvelle de bien-être. Donc, croisant tout cela... ça donne ben, effectivement les images qu'on a vues ce matin. Je suis désolée, j'en ai d'autres, mais effectivement avec du mobilier fixe et effectivement une forme fixe, je dirais, d'enseignement. Ça, c'est l'école normale d'instituteurs. Donc quand je vous parle d'homothésie, regardez, il n'y a aucune différence hein, entre la salle de classe et la salle de formation de l'école normale d'instituteurs. Donc, vous voyez, je veux dire, quand même, ça c'est intéressant, parce qu'effectivement, il y a quand même, ça veut dire plein de choses quand même, la formation pour adultes, et peut-être qu'il faut les accueillir autrement. Ça, c'est une salle de lycée actuelle, hein, voilà. Donc, bah voilà, avec des gens qui ne sont pas forcément non plus très attentifs. Et puis, voilà, une évolution possible donc vers un Learning Lab, un Fab Lab, en l'occurrence, donc sur le modèle du Dôme. Donc, dans les principes qui nous ont guidés, si vous voulez, il y en a trois. Il y a la formation des acteurs de l'éducation, c'est de la formation pour adultes, et c'est important d'en tenir compte, justement, sur la question de l'hospitalité, sur la question de l'accueil, sur la question de la médiation. On ne peut plus dissocier, donc comme nous, on fait de l'édition transmédia, on ne peut plus dissocier la ressource et la formation à l'ère du numérique. Donc c'est vrai que là, je vous ai montré des supports papier, mais on a tout un volet derrière avec des magistères, des capsules vidéo en ligne, etc., etc. Enfin, vous avez plein de choses qui accompagnent généralement tout ça. Et maintenant, on essaye effectivement de travailler sur l'interconnexion de ces mondes parce qu'on part aussi du principe qu'il faut partir de là où les gens en sont. Donc c'est peut-être rassurant, par exemple, d'avoir un manuel scolaire. C'est peut-être rassurant, j'en sais rien. Et peut-être que effectivement, partir de là, faire cette jonction entre, je dirais, les anciens et les modernes. Vous voyez, je veux dire, toujours respecter un peu le plus possible les publics et là où ils en sont éventuellement. Sachant que chez nous, vous trouverez aussi énormément de matériel ludo-éducatif. On fait ce pari-là, du point de vue aussi, si vous voulez, lieu. Pourquoi ? Parce que on part du principe que tous ces matériels sont très chers et que de l'école primaire, en passant par le collège, etc., ils n'ont pas forcément les moyens de se les acheter. Et donc, nous, évidemment, on prête. On prête, on maintient à niveau et on continue évidemment, on fait de la veille hein, informationnelle en permanence. Et donc tout ce qu'il y a chez nous, si vous voulez, est quand même très, très d'actualité. C'est un gros investissement, hein, entre parenthèses, de l'État. Et puis donc effectivement, la question de la scénarisation, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on est sur ces pédagogies actives, alors encore une fois, j'ai bien aimé la remarque de Didier tout à l'heure, c'est vrai que nous, on est très pétris voilà, de Montessori. Par exemple, on trouve tout le matériel Montessori dans les ateliers Canopé, bon, pour donner un exemple. Voilà. Alors non pas que je voue un culte particulier à la pédagogie Montessori, mais je veux dire, l'idée, c'est d'ouvrir les possibles. C'est vraiment de donner de l'inspiration à des gens qui vont être face à des enfants et qui vont peut-être être tentés de reproduire du geste pédagogique, vous voyez, qu'ils ont connu eux-mêmes. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir les possibles, les accompagner, les sécuriser pour effectivement arriver à dépasser peut-être certaines craintes ou certaines représentations. Donc effectivement, la question du design, elle était incontournable pour penser l'avenir. Et donc on s'y est attelé. Donc l'idée, c'était... Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 103 ateliers canopés sur toute la France. Donc, penser comme des learning training centers. Donc là, je redis pas ce qui a été dit ce matin, ça n'a aucun intérêt. Il y a eu tout un travail, effectivement, sur les usages et sur les besoins, en fait, de tout ce qui était la communauté éducative. Quand je dis communauté éducative, ça va très loin. Hein. On a des animateurs socioculturels, on a des parents, on a plein de gens hein, qui fréquentent potentiellement l'atelier canopé. Et puis surtout, à l'issue du fameux questionnaire d'enquête dont j'ai parlé tout à l'heure, on a demandé aussi dans ce questionnaire d'enquête, à travers ce questionnaire d'enquête, ce que souhaitaient les usagers. Et voilà un peu une synthèse de leurs réponses. Donc un lieu ouvert, un lieu connecté, un lieu confortable, un lieu modulable, un lieu différent et inspirant. Et donc c'est pour ça que j'ai tellement insisté sur différent, c'est-à-dire effectivement ne pas reproduire la salle de classe qu'ils connaissent tant si on veut leur proposer par exemple de la formation. Donc voilà, un espace actif d'interaction sociale et de créativité. Et aussi l'idée, c'est la question de lieu de référence. Parce que il y a un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué depuis qu'on se côtoie depuis hier, c'est la question de la surcharge informationnelle. Moi, je suis très très sensible à cette question. Je comprends aussi que il puisse y avoir une forme de découragement par rapport à la je dirais, la surabondance de ce qu'on peut trouver en ligne. Je suis un prof lambda, je tape trois mots et je tombe sur une séquence pédagogique qui vient de l'autre bout de la planète, par exemple du Canada. Et en fait, je ne sais pas si elle est bien, si elle n'est pas bien, et je ne sais pas si finalement c'est adapté à mon contexte, etc., etc. Bref, il peut y avoir des découragements, et je pense que c'est important qu'il y ait ce que j'appelle des veilleurs, et c'est un peu notre métier aussi, de continuer à faire de la veille, si vous voulez, constante, informationnelle, à la demande, selon les besoins, selon le projet, selon la thématique, pour tous les membres de la communauté éducative. Et donc, ça peut être aussi ça, si vous voulez, de travailler sur la notion de référence. Je crois que ça reste important. Donc, il y avait des éléments de scénographie qui sont sortis aussi de ce questionnaire, donc des fameux dépouillements des 10 000 questionnaires. Rien de nouveau sous le soleil par rapport à tout ce qu'on a vu ce matin, à ceci près qu'il y a des espaces ludiques et qu'ils existent bel et bien, notamment dans les ateliers canopés normands, il y en a 6, puisqu'ils ont tous été labellisés, et donc il y a systématiquement un espace, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir utiliser les matériels ludo-éducatifs, parce qu'il faut aussi peut-être les expérimenter, peut-être des fois aussi, avant de se lancer avec des élèves ou avec des jeunes. Voilà un peu des images ça c'est un atelier canopé, je sais plus, à Amiens, enfin sur les 103 il y avait des centaines d'images, etc. Et je voulais juste montrer effectivement le lien avec ce que nous a montré, c'est drôle parce que Jean-Pierre, c'est qu'effectivement c'est exactement les mêmes réflexions, à ceci près justement, alors j'insiste sur cette slide, que nous justement on fait ce pari de conserver justement un aspect, si vous voulez, papier, quoi, mais médiathèque, biothèque, etc., et d'assurer justement cette transition permanente entre du livre, du papier, du numérique, etc., etc., et on accompagne véritablement les gens dans un itinéraire personnel qui va faire que on pourra y revenir, on pourra repartir, et puis on va aller aussi, comme je vous le disais, vers du ludo-éducatif. Voilà un peu le panorama global de Canopée. Alors, sur l'homothésie, ça, ce sera ma conclusion. Donc, quand on a travaillé avec tous les designers donc, de la Cité du design de Lyon, ce qui était très, très intéressant, c'est qu'eux, ils ont traduit, entre guillemets, les besoins de nos usagers, tout le dialogue qu'on a eu avec un certain nombre d'établissements scolaires, d'enseignants, de chefs d'établissement, etc., etc., pour voir si, finalement, cette homothésie dans l'autre sens, une sorte d'homothésie vertueuse, était possible. Là, c'est le point d'aboutissement. Alors, c'est très synthétique. Je suis désolée, j'ai pas le temps de le commenter. Mais c'est le point. C'est dans ce livre-là. C'est le point d'aboutissement, en fait, de ce dialogue entre ce qu'il est possible de faire dans un tiers-lieu comme celui d'un atelier canopé, où justement on travaille. Certes, dans l'atelier, on reçoit tout le monde de façon constante. On va aussi effectivement dans les établissements. Et donc, juste pour vous donner un exemple de l'homothésie vertueuse, c'est qu'on a accompagné le lycée Mézin d'Alençon. Le lycée professionnel, on leur a prêté du mobilier, on leur a prêté du matériel, on est allé travailler avec eux sur leurs besoins, sur la base donc, de toute cette démarche de labellisation des ateliers canopés, pour pouvoir effectivement répondre au mieux à leurs besoins dans l'établissement. Et donc, ça y est, quoi. Enfin, ils sont sur une démarche, vous voyez, ça y est, ils ont envie. Et ils sont partis effectivement avec un chef d'établissement qui soutient l'affaire à fond et qui, avec nous d'ailleurs conjointement, va chercher des crédits là où il faut pour pouvoir développer le projet correctement. Voilà un peu, vous voyez, je veux dire, l'homothésie vertueuse. Donc j'ai déconstruit une homothésie, j'en ai reconstruit une autre. Voilà. Merci de votre attention.
Merci beaucoup. Bel effort de construction, déconstruction. Ça me plaît dans. Dans mes réflexions, une vieille citation, je ne sais plus qui a dit ça, c'était « Le savant pointe la lune, l'imbécile regarde le doigt ». À mon avis, on a la même chose entre la pédagogie et le numérique. Ce qu'on pointe, c'est la pédagogie. Il ne faudrait surtout pas voir le numérique. Le numérique n'est pas une finalité en soi, c'est le moyen d'atteindre autre chose. Et puis, toute votre organisation en atelier, et puis la valeur ajoutée que vous mettez à l'échange, qui va même jusqu'au prêt, plaide complètement pour ça.
Et à la production, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de bottom-up, c'est-à-dire qu'en termes de réseau éditorial, c'est un réseau canopé, donc en fait, admettons que...
Ce qui est normal pour une canopée.
Oui, madame est un projet absolument génial à nous proposer, et si vraiment on estime que ça vaut le coup de le valoriser au niveau national, on peut le transformer, entre guillemets, en production éditoriale nationale. Et là, elle va avoir l'appui d'équipes d'édition qui vont, je dirais, magnifier la chose pour en faire une production éditoriale nationale. Voilà un peu comment ça fonctionne maintenant, ce qui est très, très différent de comment ça fonctionnait avant.
On voit bien les changements qui sont à l'œuvre. C'est normal dans une société en pleine transition. Ben oui. Qui a une question ? Ah, l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur a une priorité.
La question, c'est travailler avec les collectivités, en fait. Comment se... Non, oui, non, aussi.
Mais je l'ai dit, Jérôme. Non, tu l'as dit. Nous, on fait très attention au droit. c'est notre métier.
Non, la question, c'est comment se fait le travail avec les collectivités ? Est-ce que c'est eux qui financent les rénovations, qui financent aussi les constructions d'établissements ? Parce que si eux ou les programmistes ou les architectes ne sont pas convaincus, ben je sais que ça peut être un frein énorme, quoi. Donc comment vous les attaquez ? Comment vous travaillez avec eux à partir des projets ? Est-ce qu'ils soient sensibles aussi à cette notion-là ?
Alors, cette question, elle est très, très intéressante parce que dans une collectivité, c'est vrai que donc nous, en tant qu'opérateur public national, on a plein de relations avec les collectivités, hein, puisque donc, pour donner un exemple très concret, hein, la région Normandie a abonné tous les lycées, lycées d'enseignement général technologique, lycées pro, lycées agricoles, EREA, etc., aux ressources et services Canopée. Bon, donc déjà, la région, elle a capté qu'il y avait un truc et qu'il fallait vraiment accompagner les lycées. Donc du coup, pour eux, du coup, c'est gratuit, c'est la région qui a pris en charge. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement dans les collectivités elles-mêmes l'absence, ou disons le côté ténu du dialogue entre les différents services. Parce que là, ce que tu évoques, c'est qu'il faudrait que le DGS d'un côté, le VP éducation d'un côté, de l'autre côté, les services bâtimentaires, et tu vois ce que je veux dire. Le seul endroit où j'ai eu une chance extraordinaire dans ma carrière, c'était aux affaires étrangères. J'ai travaillé pendant 3 ans comme directrice des lycées français d'Europe, dans l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et là, j'avais... C'est affreux de dire ça, mais enfin, toutes les compétences, y compris immobilières. Donc, à l'époque, j'avais dû construire des établissements scolaires à Dublin, enfin, etc., etc. Et donc, j'avais mis dans la boucle, parce que j'étais déjà finalement dans ce raisonnement-là à titre personnel, disons, mais c'était vraiment une initiative personnelle. Personne ne m'avait rien demandé au ministère des Affaires étrangères de faire comme ça. J'avais créé des comités d'usagers. Donc des comités d'usagers élèves, des comités d'usagers parents, des comités d'usagers professionnels, enseignants, etc., etc. Dès l'opération avec les programmistes. Donc les programmistes non plus n'étaient pas habitués. Mais donc avant même de faire le concours d'archi, si tu veux, j'avais lancé... Voilà. Donc c'est vrai que là, j'avais eu une grande liberté de manœuvre. très soutenue par disons, l'ensemble évidemment des parents des lycées français d'étrangers qui... quand ils disent quelque chose, sont souvent assez entendus, donc eux, entre parenthèses. Et donc, du coup, tout ça, c'était très, très bien passé. Le retour en France, je dois avouer, a été un peu décevant.
J'imagine. Voilà. Une autre question ? Oui. Alors, rapide, parce que moins de 2 minutes. Réponse comprise.
Oui, j'ai travaillé pendant 30 ans de ma carrière... l'organisation pédagogique des établissements de l'AFPA, je peux vous dire que il n'y a pas de cahier des charges qui sortent sans une volonté très affirmée de définir avec l'architecte ce qui sera l'outil au service des enseignants et des stagiaires. Donc c'est un faux problème. Je crois qu'on peut passer outre toutes les organisations.
Pour la construction des établissements scolaires, je vous arrête tout de suite, vous avez un proviseur ou un chef d'établissement qui est nommé un an avant la construction et qui est tout seul avec tous les corps de métier possibles et imaginables et avec la collectivité pour la préparation de la construction. C'est comme ça que ça se passe dans un rectorat. Voilà, donc c'est quand même la grosse différence.
Hein, oui, c'est une très grosse
différence. Sur les collèges et ici. Hein.
Je pense qu'il y a des... On a la possibilité, dans le privé, et à l'AFPA, c'est le cas, d'organiser son espace formation de la manière dont les formateurs... Et on questionnait beaucoup les formateurs.
Mais dans l'enseignement public, c'est très difficile.
Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, tout le monde. Donc...